VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 février 2017, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Gabon, les autorités ont annoncé hier des sanctions contre les enseignants grévistes.
En Guinée, la grève des enseignants est suspendue et la réouverture des classes est prévue pour ce mercredi.
Inquiétude sur la santé des présidents Muhammadu Buhari au Nigeria et Abdelaziz Bouteflika en Algérie.
Amnesty International déplore dans son rapport 2016 la rhétorique toxique dans certains pays et l'indifférence internationale face aux atrocités.
Ici aux États-Unis, nouvelle consigne de l'administration Trump pour accélérer les expulsions de migrants sans papier.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Gabon, les autorités ont annoncé hier des sanctions contre les enseignants grévistes au lendemain de marches d'étudiants protestataires. Claire Morin-Gibourg.
C'est lors d'une conférence de presse qu'Alain Claude de Billy Binze, porte-parole du gouvernement, a annoncé la suspension de la solde de 807 enseignants du primaire et secondaire. Il a également accusé 19 professeurs d'avoir obligé les parents d'élèves à les payer afin qu'ils donnent les cours. De son côté, le ministre de l'Éducation, Florentin Moussavou, a menacé de possibles radiations tous les agents du service public qui sont en situation d'abandon de poste depuis au moins 3 mois. C'est un arriéré de primes non réglées en 2015 qui a déclenché la grève le 31 octobre dernier. Lundi, la police a dispersé des manifestations de lycéens qui appelaient à la reprise des cours à Libreville, Port-Gentil, Oyem et Lambaréné. Il réclamait aussi le paiement de la bourse scolaire et de meilleures conditions d'apprentissage. Pour le gouvernement, ces mouvements ont été téléguidés par les enseignants en grève.
En Guinée, la grève des enseignants est en revanche suspendue et la réouverture des classes closes depuis 3 semaines est prévue pour ce mercredi après l'accord avec les syndicats annoncé par le gouvernement. 7 personnes ont été tuées dans des violences selon les autorités. Idriss Fall a joint à Conakry Si Savané Souleymane, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheur de Guinée.
La grève, on l'a suspendue parce que les points importants qui restaient ne sont pas encore réglés, notamment le point sur la valeur d'indice salarial. Les autres points, lorsqu'on a dépassé les 50%, nous nous sommes dit qu'on peut suspendre la grève et continuer les négociations parallèlement.
Est-ce que les enseignants à l'intérieur du pays sont d'accord?
Bon, vous savez, il est difficile. À partir de Conakry, on téléphone, nous sommes en contact avec les collègues enseignants. D'aucuns sont d'accord, d'autres ne le sont pas.
Et qu'est-ce qui va se passer donc ce mercredi?
Ce mercredi, c'est la rentrée officielle des cours, la reprise des cours.
Et qu'en est-il des vacataires? Parce que quand même, vous étiez en solidarité pour qu'on puisse recruter les enseignants vacataires.
Bon, les enseignants chez nous, nous les appelons les contractuels, ces vacataires. Tous, ils ont été recrutés officiellement. Tous reprennent les cours qu'on leur avait fait abandonner pendant l'exercice de la fonction enseignante. Les négociations ont abouti et le chef de l'État a ordonné à ce qu'ils soient tous repris. Et voilà.
Si Savané Souleymane, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.
En Gambie, le président Adama Barrow a gracié 174 personnes incarcérées sous le régime de son prédécesseur Yahya Jammeh, a annoncé hier une source pénitentiaire gambienne à Banjul. Les précisions de John Lyndon.
En vertu de ses pouvoirs, le président Barrow a accordé la grâce à 174 prisonniers, tous des détenus de droit commun, a déclaré cette même source. Le pardon leur a été accordé le 18 février. Toutes les personnes graciées ont été libérées et ont rejoint leurs familles. Et il y aurait des Sénégalais, mais leur nombre n'est pas précisé. Le compte Facebook officiel du président Barrow fait également état d'une grâce en faveur de plus de 170 personnes, dont 12 femmes. D'autres prisonniers devraient être libérés dans les prochaines semaines, selon ce message. Les Gambiens ont fêté le 18 février dans un stade de Bakau, près de la capitale Banjul, l'investiture de M. Barrow, le jour de l'anniversaire de l'indépendance du pays. M. Barrow avait déjà libéré plusieurs personnes arrêtées sous le régime de Yahya Jammeh et avait annoncé la libération de tous les détenus sans jugement en Gambie.
Le Nigeria cherche à rassurer la population sur l'état de santé du président Muhammadu Buhari, dont le séjour en Grande-Bretagne pour raisons médicales a été prolongé. Les autorités nigérianes affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, Jacques Aristide.
Cela fait plus d'un mois que le président Buhari se trouve à Londres. Au Nigeria, son absence, qui devait à l'origine durer une dizaine de jours, provoque des doutes sur sa santé et alimente les craintes d'une crise politique. Mais pour son porte-parole, il ne s'agit que d'un repos médical. Femi Adesina a indiqué hier à Abuja que le chef de l'État avait besoin d'une plus longue période pour récupérer, telle que recommandée à la lumière des examens médicaux, et d'assurer que cette prolongation ne doit inspirer au peuple nigérian aucune raison d'inquiétude, sans toutefois préciser quand le président sera de retour. En attendant, l'ancien général de 74 ans a transmis les rênes du pouvoir au vice-président Yemi Osinbajo dans un pays où prévaut en ce moment un climat national tendu, marqué par une grave récession économique.
Pardon, Anne.
En Algérie, les inquiétudes sur l'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika se sont accrues au lendemain de l'annulation à la dernière minute de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel. La présidence algérienne a parlé d'une indisponibilité temporaire due à une bronchite aiguë. Au pouvoir depuis 1999, M. Bouteflika, 80 ans, le 2 mars, a été frappé en 2013 par un accident vasculaire cérébral qui a affecté sa mobilité et son élocution. Ses problèmes de santé récurrents posent question sur sa capacité à diriger le pays.
Des habitants ont découvert hier près de Tripoli les corps de 74 migrants morts noyés après le naufrage de l'embarcation dans laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe. Par ailleurs, les autorités italiennes ont annoncé avoir secouru 630 migrants au large de la Libye. Le Croissant Rouge local se plaint du manque de moyens et a affirmé ne pas disposer des véhicules appropriés pour transporter les corps ou de cimetières pour les inhumer. Mardi, à la tombée de la nuit, les corps se trouvaient toujours sur la plage, a constaté un photographe de l'AFP.
Les combats ont repris mardi entre forces gouvernementales soudanaises et rebelles au Kordofan Sud, un état du sud du Soudan. Ces affrontements interviennent alors que Khartoum avait unilatéralement prolongé de 6 mois en janvier un cessez-le-feu en vigueur depuis juin dans cet état troublé et dans ceux du Darfour et du Nil Bleu.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a promis mardi un accès sans restriction aux humanitaires dont les efforts ont été entravés depuis plus de trois ans par la guerre pour venir en aide aux populations touchées par la famine. L'un des trois agences de l'ONU, UNICEF, FAO et PAM, avait indiqué que 4,9 millions de Sud-Soudanais, soit 42% de la population totale du pays, avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump a donné hier de nouvelles consignes pour accélérer les expulsions de migrants sans papier. C'est ainsi que le département américain de la sécurité intérieure a autorisé les agents d'immigration et de douane à interpeller la plupart des personnes en situation irrégulière qu'ils rencontreraient dans l'exercice de leurs fonctions, ne faisant une exception explicite que pour les sans-papiers arrivés enfants sur le territoire, surnommés les Dreamers. Nous reviendrons sur cette question en deuxième partie de cette édition.
Amnesty International dit que l'année 2016 a été marquée par la montée d'une rhétorique toxique qui divise, ainsi que par une indifférence internationale face aux atrocités commises dans des pays comme la Syrie, le Yémen et le Soudan du Sud. Dans son dernier rapport annuel publié aujourd'hui, l'ONG de défense des droits de l'homme s'en prend aux pays riches comme aux pays pauvres. Amnesty met surtout l'accent sur ce qu'elle a appelé les discours clivants du président américain Donald Trump, Viktor Orban de Hongrie, Recep Tayyip Erdogan de Turquie et Rodrigo Duterte des Philippines, discours qui cible les immigrés, les musulmans, les dissidents politiques et d'autres groupes.
Donald Trump a clairement dénoncé mardi ce qu'il a appelé les menaces horribles et douloureuses visant la communauté juive après une série d'incidents contre des centres communautaires ces dernières semaines aux États-Unis. Après avoir esquivé le sujet pendant plusieurs jours, il a parlé d'un triste rappel du travail qui reste à faire pour éliminer la haine et les préjugés. Profitant de sa première visite du musée de l'histoire afro-américaine à Washington, il a inauguré il y a moins de 6 mois par son prédécesseur Barack Obama, le président Trump a appelé à combattre le sectarisme, l'intolérance et la haine sous toutes ses formes. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guériec.
Fraude aux cartes Visa prépayées. Edgar Théophile Hanon, le patron de la filiale gabonaise BGFI Bank, a été officiellement suspendu de ses fonctions par le conseil d'administration de la banque. Le groupe financier présent dans 11 pays de la Côte d'Ivoire à Madagascar ne précise toutefois pas ce qui lui est reproché. La semaine dernière, une fraude aux cartes Visa prépayées qui a fait perdre à l'établissement plus de 1,5 milliard de francs CFA a été dévoilée. La reprise de la croissance s'accélère au Burkina Faso. L'économie y a cru plus fortement que l'attendait le gouvernement l'an dernier. Pour 2017, le ministère de l'économie table sur une prévision encore plus forte, autour de 7,6%, une embellie qui s'explique essentiellement par le rebond de la production agricole et minière. Pour éradiquer la corruption, mieux vaut traquer les tigres que les mouches. C'est en ces termes que s'est exprimée Christine Lagarde dans son analyse de la santé des Afriques. La directrice générale du Fonds monétaire international, qui s'est rendue en Centrafrique, en Ouganda et à Maurice le mois dernier, a également mis l'accent sur la lutte contre les inégalités.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On en sait plus sur la bousculade mortelle lors d'un match de foot en Angola.
Une vingtaine de personnes avaient trouvé la mort, souvenez-vous, dans le stade de football de Huige, dans le nord de l'Angola, avant le coup d'envoi d'un match entre le club local de Santa Rita et du Recreativo do Libolo. La Fédération angolaise de football a annoncé hier une défaillance du dispositif de sécurité. On rappelle le dernier bilan officiel qui fait état de 17 morts et 58 blessés. Mais selon des sources médicales, au moins 25 personnes sont mortes.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Ah oui, match fou hier à l'Etihad Stadium. Manchester City l'a emporté 5-3 devant Monaco, qui pourra nourrir beaucoup de regrets après avoir mené 2 fois au score. Sterling avait sonné le début des hostilités à la 26e minute pour les Anglais, 1-0. Mais 4 minutes plus tard, Falcao égalise d'une tête plongeante. Mbappé double la mise. Avant la mi-temps, les Monégasques mènent 2-1 et rentrent au vestiaire avec un but d'avance. Le tournant du match dès la reprise de la deuxième mi-temps, Monaco qui rate un pénalty. Manchester City parvient à égaliser par Agüero qui passe sous les gants de Subasic. Puis un coup de génie de Falcao, encore lui, qui redonne l'avantage 3-2 à Monaco en lobant le gardien Caballero. Sur 2 corners, enfin, Manchester City parvient à inscrire 2 buts et Sané inscrit le 5e but des Citizens. Score final 5-3.
Autre match du soir, l'Atlético très réaliste face à Leverkusen.
L'Atlético Madrid a quasiment assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en allant s'imposer 4-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen sous l'impulsion du redoutable duo français Griezmann-Gamero. Les Madrilènes, plus précis et plus incisifs, ont fait preuve d'une efficacité chirurgicale, mais les Allemands n'ont jamais abdiqué, réduisant 2 fois le score. Une façon de sauver la face et de garder un minuscule espoir pour le match retour.
La suite, c'est ce soir.
Et oui, la Juventus de Turin, finaliste de l'édition 2015, se lance dans les 8e de finale de cette Ligue des Champions ce soir, en position de favori sur la pelouse de Porto. La Juve reste sur 5 titres de champion d'Italie d'affilée et cette saison encore, elle dispose d'une large avance en Serie A. Dans l'autre 8e de finale ce soir, Séville reçoit Leicester, champion d'Angleterre à la surprise générale la saison passée. L'équipe de Claudio Ranieri est en très grande difficulté cette année en Première Ligue, 17e à la limite de la zone de relégation.
Le choc en Espagne ce soir, Real-Valence.
Le Real Madrid à nouveau au complet se déplace à Valence pour disputer le premier de ses 2 matchs en retard en championnat d'Espagne et tenter de distancer ses dauphins. Leader avec 52 points, le Real ne compte qu'une petite longueur d'avance sur le FC Barcelone et 3 sur le FC Séville. Avant ce match de la 16e journée, il avait été décalé Idrissa en décembre dernier pour permettre au club merengue de disputer et de remporter le mondial des clubs. Allez Idrissa, avec vous, NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les matchs reprennent jeudi après le week-end des All-Star Games. La vedette légendaire des Lakers, Magic Johnson, est le nouveau patron de l'équipe de Los Angeles, dont il a été nommé hier président des opérations. Mitch Kupchak et Jim Buss, les deux anciens responsables des Lakers, ont été remplacés.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, des mesures sur l'immigration dans deux directives. Le secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly, a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les clandestins qu'ils rencontreraient dans l'exercice de leurs fonctions. Une note qui inquiète dans les milieux d'immigrés africains. Écoutez la réaction de Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali, ici à Washington.
La communauté malienne d'ici est importante sur le plan humain tout simplement, mais elle est aussi importante sur le plan social par rapport à tout ce qu'elle fait comme apport à l'économie du pays. Et donc, apprendre que du jour au lendemain, il y a des mesures draconiennes contre lesquelles malheureusement nous ne pouvons pas grand-chose est vraiment très très préoccupant pour nous.
Est-ce que vous avez eu des réactions de votre communauté? Est-ce que les gens ont commencé à vous appeler?
C'est-à-dire que moi-même, j'étais allé vers les gens, mais bon, c'était avant l'arrivée du pouvoir actuel. Parce que déjà, vers la fin du pouvoir de l'administration sortante, le département de l'Intérieur s'était un peu ému de ce qu'il considérait comme étant les retards à délivrer des documents de voyage. Et ils ont surtout insisté pour que nous acceptions de délivrer des documents pour les gens qui sont coupables de crimes et tout ça. J'avais fait une tournée à l'intérieur du pays au cours de laquelle j'ai effectivement informé la communauté malienne de ce que, bon, il vaut mieux que chacun se tienne tranquille. Quand on quitte le Mali pour venir ici, pour chercher un mieux-être ici, on n'a pas le droit de se livrer à des activités à caractère délictuel ou criminel. Alors donc ça, c'était sur ce débat-là qu'on était, jusqu'à ce que la nouvelle administration arrive.
Alors quand vous rencontrez vos collègues de l'administration américaine, de quoi vous parlez?
L'administration américaine aujourd'hui est dans une phase de transition, c'est-à-dire que ceux avec qui nous parlons, aussi bien au département d'État qu'au ministère du Homeland Security, que j'appelle ministère de l'Intérieur, ce sont ces gens-là qui gèrent les déportations. Les cadres américains que nous rencontrons à ce niveau-là sont eux-mêmes un peu dans l'incertitude. Voilà. Et donc, eux et nous discutons de notre volonté à nous qu'ils tolèrent nos concitoyens et leur totale incapacité vis-à-vis des nouvelles mesures venant des nouvelles autorités qu'eux-mêmes découvrent en même temps que nous tous. Alors donc, nous sommes vraiment dans une phase d'expectative pour tout le monde et j'espère seulement que l'Amérique est aussi le pays de la loi, c'est le pays du règne de la loi, c'est le pays du règne de la tolérance. Donc nous croisons les doigts, nous attendons, mais évidemment nous sommes très 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 inquiets pour nos populations.
C'était Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali à Washington. Il répondait aux questions de Bagassi Koura.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Amnesty International dresse un tableau sombre sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2016. Persistance des conflits dont les civils sont les principales victimes, faible réponse à la crise des réfugiés, discours de haine et de division par certains dirigeants qui compromettent largement les droits de l'homme. Eric Manirakiza a joint à Dakar, au Sénégal, la directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud.
Précisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous avons vécu une année où des gouvernements ont montré une réelle volonté de réprimer de manière assez régulière et assez systématique les différentes formes de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté de manifestation, etc., y compris dans des pays qui sont considérés comme des pays plutôt démocratiques ou en tout cas qui ont montré des progrès et des alternances politiques relativement pacifiques. dans ces pays, dans quasiment chaque pays de la région, nous avons vu des manifestations qui ont été interdites en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, etc., ou qui ont été réprimées avec parfois des morts. Le Burundi, évidemment, avec la situation extrême qui a prévalu suite aux tensions qui entouraient la question du troisième mandat, une répression féroce qui s'est abattue sur l'opposition, sur la société civile et sur les journalistes également, et malheureusement une situation extrêmement tendue avec par ailleurs le Burundi qui s'est retiré de la CPI, donc avec des chances très minces pour les Burundais qui ont été victimes des violations de pouvoir obtenir justice un jour.
Vous dénoncez l'indifférence de la communauté internationale aux crimes de guerre devenus la norme selon vous. C'est quoi exactement?
À la fois, on a assisté à un jeu entre différentes puissances avec des intérêts contradictoires qui ont empêché qu'une solution soit trouvée. Mais c'est aussi ce discours très répandu aujourd'hui de haine et de peur et de division qui conduit à une situation où l'on considère finalement que les droits de l'homme sont très secondaires et où des États prennent des mesures totalement illégales en refusant de remplir leurs obligations en matière d'accueil de réfugiés, etc. En Afrique, nous avons encore de centaines de milliers de personnes qui fuient les conflits et qui fuient les zones de guerre, et la communauté internationale ne prend pas sa part de responsabilité dans cette situation.
Et pour vous, quelles sont les solutions possibles?
Je pense qu'il est important que les citoyens, de manière générale, se mobilisent. Nous ne pouvons plus attendre que ce soit uniquement les États qui assurent le respect des droits humains, puisque manifestement ils mettent en place des politiques qui justement visent à négliger totalement la question des droits humains. Il est important que des pressions soient exercées sur les gouvernements pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Il est important de continuer à militer pour la lutte contre l'impunité. Donc il est important notamment pour ce qui concerne l'Afrique, que tout ce débat sur le retrait de la CPI, que les citoyens eux-mêmes s'engagent dans cette discussion et fassent en sorte que les États africains, plutôt que d'envisager un retrait de la CPI qui représenterait une forme d'impunité, au contraire, on encourage les gouvernements à discuter avec la CPI pour que l'impunité cesse.
C'était Samira Daoud d'Amnesty International, jointe à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Malgré la récente visite du ministre sénégalais de la pêche à Nouakchott, la Mauritanie refuse toujours de renouveler les licences de pêche pour des centaines de pêcheurs de Saint-Louis dans le nord du Sénégal. Résultat, Dakar demande aux pêcheurs sénégalais de rentrer en attendant de trouver une solution avec Nouakchott. Mais l'économie locale risque d'en souffrir énormément car beaucoup de pêcheurs estiment que les côtes sénégalaises ne sont plus poissonneuses et sont donc obligés de migrer en Mauritanie pour soutenir leur famille. Abdourahman Dia a joint à Saint-Louis au Sénégal le journaliste Moussa Diagne.
Les pêcheurs présentement traversent des moments très 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 difficiles parce que vous savez bien que la pêche ici à Saint-Louis représente au moins 90% de l'activité économique. Et donc nous vivons à partir de la pêche. Si le commerce marche très bien, c'est parce que la pêche marche bien. La pêche est devenue donc une des choses incontournables ici dans la ville de Saint-Louis. Donc ici, depuis quelque temps, les pêcheurs de la langue de Barbarie traversent des moments très difficile parce qu'ils ne peuvent plus vraiment accéder dans la zone sénégalo-mauritanienne parce qu'ils n'ont plus de licence de pêche depuis maintenant un an.
Et qu'est-ce qui explique ce blocage? Pourquoi la Mauritanie n'a pas renouvelé les licences de pêche pour les pêcheurs de Saint-Louis?
Le gouvernement mauritanien n'a pas donné exactement une réponse juste à cela. Mais ici, au niveau de Guendar, au niveau du Sénégal, on pense que le gouvernement mauritanien a pensé ne plus donner ses licences de pêche parce qu'ils ont leur fils professionnel maintenant en pêche. Donc c'est pourquoi eux, ils ne veulent plus maintenant donner ses licences de pêche à ces pêcheurs guendariens qui souvent, selon eux, pillent leurs ressources. Donc eux, ils ne peuvent pas maintenant continuer à donner des licences de pêche à des pêcheurs sénégalais qui prennent leurs ressources et les ramener au Sénégal.
Mais pourquoi ces pêcheurs de Saint-Louis tiennent-ils à aller en Mauritanie? Le Sénégal dispose quand même de 700 km de côte.
Bien sûr, sur 700 km de côte sans ressources halieutiques, c'est rien du tout. Vous savez, la côte mauritanienne est poissonneuse. C'est pourquoi souvent les pêcheurs guernariens préfèrent partir en campagne en Mauritanie que de rester ici au Sénégal. Parce que souvent, comme on le dit dans le milieu des professionnels de la mer, ici au Sénégal, notre mer est une mer désertique. Il y a plus de 8000 embarcations ici. Vous pensez que ces 8000 embarcations peuvent aller pêcher ici à Saint-Louis?
Et vous avez vu des pêcheurs sénégalais qui commencent à rentrer au Sénégal?
Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu des pêcheurs qui ont traversé la frontière. Donc, ils étaient presque une dizaine. Mais on nous a dit que depuis maintenant quelques jours, près de 450 pêcheurs ont traversé la frontière sénégalo-mauritanienne pour revenir.
Joint à Saint-Louis, le journaliste sénégalais Moussa Diagne. Libre circulation des personnes en zone CEMAC, les commerçants et transporteurs camerounais qui vendent des produits vivriers au Gabon espèrent la fin des tracasseries qu'ils subissent sur le tronçon Yaoundé-Libreville, surtout après l'engagement pris par les présidents gabonais et équato-guinéens d'ouvrir leurs frontières aux ressortissants des autres pays de la CEMAC. De Yaoundé, Emmanuel Juntap.
C'est l'heure du départ pour le Gabon. Nous sommes au lieu dit marché 8e à Yaoundé. Une camionnette bondée de sacs d'oignons se détache de la file d'engins lourds stationnés ici depuis des heures. Des grandes eaux, le chauffeur de bord qui nous répond est un Camerounais. Une fois par semaine, depuis 6 ans, ils viennent transporter des vivres frais au Cameroun pour les revendre sur les marchés du Gabon. Pour ce énième voyage du jar, de Grando sait déjà ce qu'il attend sur le tronçon Yaoundé-Libreville.
J'ai la carte de séjour du Gabon et à la frontière, on m'exige toujours le visa. Je suis Camerounais, j'ai une voiture gabonaise. Dès que je suis au Cameroun, on me traite de Gabonais. Les Camerounais ne gèrent pas la route comme moi. Si le Camerounais donne 500, je vais donner 1000 francs aux côtés du Cameroun. Parce qu'on dit c'est la voiture gabonaise.
Ces griefs qui entravent la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, M. Etoundi a fini par s'y accoutumer. Au lieu dit marché d'Mfundi à Yaoundé, Etoundi achète chaque lundi des vivres frais qu'il empile dans un camion. Le lendemain, aux premières heures, sa livraison prend la direction du Gabon. Après 15 ans d'activité, l'homme d'affaires dit faire face aux mêmes difficultés sur le tronçon Yaoundé-Libreville.
Pour un camion qui a l'immatriculation gabonaise, quitte d'abord le Gabon pour le Cameroun. Quand il traverse déjà, il doit acheter ce qu'on appelle le passe-avant. On te signe un papier au niveau de la douane. Ce papier, nous l'achetons à 25 000. Ça n'exclut pas qu'on vous en arme. Vous savez bel et bien que la route coûte cher. Les camions qui chargent le Gabon, vous allez voir un gros chargement qui dépasse même le poids du véhicule. Nous, les commerçants, on ne peut pas s'en sortir. Si jamais il faut se charger, selon le tonnage du véhicule, quitter avec le camion rien que ici, Yaoundé, pour Libreville, c'est 650 000. Donc ça voudrait dire le carburant, la police, la douane. Et de l'autre côté là-bas, à chaque contrôle là-bas, il faut payer au moins 10 000.
L'engagement des présidents Ali Bongo du Gabon et Théodore Obiang de la Guinée équatoriale vendredi dernier a appliqué la libre circulation intégrale des personnes pour tous les ressortissants de la zone CEMAC devrait changer la donne actuelle, à condition de se pencher sur l'urgence. Professeur Raymond Ebalé, enseignant d'histoire économique à l'Université de Yaoundé 1.
Il va falloir que les pays de l'Afrique s'en se mettent maintenant au travail pour mettre en place des mécanismes qui rassurent, c'est-à-dire que l'Afrique centrale mette en place un système centralisé de vérification, n'est-ce pas, de l'identité de personne. 19 points de contrôle entre la frontière du Cameroun et la ville de Libreville. Je pense que ça doit pouvoir cesser. Il va falloir maintenant éduquer les policiers, leur faire comprendre que maintenant nous sommes dans une dynamique de circulation libre.
Les commerçants et transporteurs camerounais du tronçon Yaoundé-Libreville disent vouloir d'abord voir les choses changer avant d'y croire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écouterons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, branchez-vous sur VOA Afrique pour participer au Calling Show tous les mercredis et vendredis à 18h, temps universel. Avec vous, on discute de tout sans tabou. Politique, société, culture, justice et bien plus encore. Vous pouvez même nous suggérer des sujets sur notre page Facebook. Ne manquez pas ce rendez-vous car c'est votre avis qui nous intéresse.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.